Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune. Dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Bien le bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue sur Radio Albiges dans Comme un lundi, l'hebdo d'info du lundi 12 décembre 2022. Et je suis en compagnie d'Ismaël, jeune stagiaire à Radio Albiges. Bonjour Ismaël.
Oui, bonjour Arnaud.
Comment ça va ?
Bien, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Alors au programme de cette émission, vous retrouverez des échos du Festival du cinéma social et ouvrier qui s'est déroulé à Carmaux en novembre dernier, où il a rencontré une jeune scénariste pour en savoir un peu plus sur son métier. Nous entendrons aussi Claire, journaliste de Radio Air d'Otan, pour nous parler elle aussi de son métier, mais surtout du documentaire sur la fête des morts qui s'est déroulé à Rabastens. Vous entendrez aussi une création sonore autour de l'eau, et plus particulièrement sur l'eau d'un lavoir à Gaillac qui pose quelques problèmes. Une production sonore de Radio Albiges pour l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives. Et nous commençons tout de suite avec des extraits de l'émission réalisée en public ce mardi 6 décembre à l'Université Champollion d'Albi, une émission proposée par la licence pro Énergie Climat sur la thématique des énergies et les causes et conséquences de la crise énergétique actuelle. Dans cette émission, plusieurs invités ont apporté un éclairage sur les problématiques de l'énergie. Je vous propose d'écouter Christine Moncey et Thibaut Mahul du syndicat d'énergie du Tarn, interviewés par Vincent Roosevelt.
Le syndicat d'énergie du Tarn s'occupe donc d'un groupement d'achat, achète de l'électricité. En ordre de grandeur, c'est 0,5-0,7 TWh. Bien évidemment, nous n'avions ni anticipé la guerre en Ukraine, ni une telle hausse, ni des problématiques en termes de disponibilité des centrales nucléaires qui ont fait l'envolée des prix du marché de l'énergie. Nous avions anticipé une demande, un besoin des communes, puisque nous avons à peu près 300 membres, qui sont des communes, des CCAS, départements, collèges dans notre groupement. C'est pour ça que Thibaut, ici présent, avait été recruté pour accompagner au mieux les collectivités, les établissements publics dans ces achats d'énergie et dans la sobriété. Or, Thibaut est arrivé en pleine crise.
Donc le syndicat de l'énergie, il a plusieurs métiers, mais un de vos métiers, c'est de fournir une électricité au meilleur prix, avec la meilleure qualité possible à tous vos adhérents, et notamment les communes rurales, qui, avec cette électricité, éclairent leur commune ou chauffent leur bâtiment. Alors Thibaut Mahul, oui, peux-tu nous présenter ton métier, peut-être un peu plus en détail? On n'imagine pas que derrière cette fourniture d'électricité, il y a aussi des métiers qui s'apparentent plus à ce qu'on voit à la bourse, notamment ce que peuvent faire les traders.
Alors oui, effectivement, en fait, au niveau de comment ça a impacté nos marchés, déjà, il faut savoir qu'on s'est retrouvé, nous, à devoir renouveler nos marchés à l'été 2021, donc au tout début de la crise. Donc effectivement, on a été lourdement impacté parce qu'on a eu des prix qui ont commencé à s'envoler donc au deuxième semestre de l'année 2021. Donc comment on a anticipé cette crise, c'est que vu que quand on a consulté, on était en période de tension, on a choisi de décaler dans le temps notre prise de position pour nos achats d'électricité pour les années qui allaient suivre. Donc en fait, on a modifié notre stratégie d'achat par rapport à ce qu'on faisait à l'origine. À l'origine, on obtenait un prix au moment où on consultait. Et là, vu qu'on a un marché qui est trop volatile, aujourd'hui, le métier a changé puisque d'un jour à l'autre, les prix sont très variables et du coup, on essaye de prendre le moins de risques possible en prenant différentes positions le long d'une année. Ça permet d'avoir un prix moyenné sur une année plutôt que d'avoir un prix unique à un instant T.
Donc nous avons une présentation détaillée ce matin. C'est vrai que c'est très très complexe. Concrètement, pour une commune rurale, ça a donné quel type d'évolution de prix? Et s'il n'y avait pas eu ce groupement d'achat, quelle aurait été la facture?
Alors c'est très compliqué de vous répondre. Il faut savoir qu'au groupement d'achat, on n'a jamais pris d'engagement sur le prix. Historiquement, effectivement, on avait des résultats, on était plus performant que le tarif réglementé de vente, hein, qui est un peu la valeur référence. Donc aujourd'hui, c'est plus l'argument prix qu'on met en avant parce qu'on a un marché qui est très volatile, c'est ce que j'expliquais. Et du coup, d'un jour à l'autre, on a des variations de prix qui sont très importantes. Du coup, on a plus cet argument prix qu'on met en avant. Néanmoins, ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est tout l'accompagnement qu'on porte à côté en matière de maîtrise de l'énergie, d'énergie renouvelable notamment. Et c'est aussi toute la partie, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, on se transforme presque en trader et aujourd'hui, les communes rurales, elles ne seraient pas en mesure de le faire. Donc, on prend cette partie-là un peu à notre charge.
Catherine Mancet.
Par ailleurs, le point important à souligner, c'est par le travail qui est mené dans ce groupement, on n'a pas eu de fournisseur en faillite, on a pu toujours continuer à proposer un fournisseur. Il y a d'autres groupements qui se sont retrouvés sans fournisseur d'électricité ou de gaz. La stratégie que l'on a prise, comme disait Monsieur Mahul, on s'est adapté à cette crise, a permis d'avoir une continuité de fourniture d'électricité et de gaz, une continuité de fournisseurs. Après, Monsieur Mahul est très modeste dans son travail parce que par rapport au référentiel de prix de la Commission de régulation de l'énergie, nous nous situons toujours dans les moyennes plutôt basses des standards de prix nationaux, voire très basses. Donc, malgré cette envolée, on est dans les prix les plus bas de cette envolée de prix et avec des fournisseurs non défaillants. Des structures voisines n'ont pas eu de fournisseurs, le ministère des Armées n'en a pas eu. Voilà, nous on a continué via les cahiers des charges un peu stricts que nous avons à avoir des fournisseurs qui ont continué à faire leur métier de fournisseur d'électricité.
Quel est le lien entre le gaz, l'électricité et puis aussi cette logique européenne qui peut avoir aussi des aspects bénéfiques, mais dans ce que vous disiez ce matin, vous trouviez aussi ceci aberrant sous certains aspects?
Alors, sur les aspects techniques, pourquoi le prix du gaz est lié au prix de l'électricité? En fait, pour déterminer à un instant T le prix de l'électricité, on va utiliser un principe de préséance économique, le merit order en anglais. Ça consiste à classer les moyennes de production, les actifs de production, par coûts marginaux de production. Et en fait, en fonction de la puissance appelée à chaque instant, on va appeler différentes centrales. Donc s'il n'y a pas beaucoup de consommation, on va appeler que des éoliennes. Puis on va aller chercher de l'hydraulique. Puis on va aller chercher du nucléaire. Puis on va aller chercher après des centrales fossiles. Parmi les centrales fossiles, on a notamment le gaz. Donc quand on dit que l'électricité est indexée sur le prix du gaz, c'est parce que très souvent, le gaz correspond à la dernière centrale qu'on a été chercher à l'échelle européenne. Et donc le prix de l'électricité, automatiquement, s'indexe sur le prix du gaz. Voilà.
Sur cet aspect-là, au niveau européen, donc, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté en ce moment. On se dit que ce marché européen de l'électricité, même si on voit bien l'intérêt, notamment en ce moment, de solidarité, où si on a besoin d'électricité, on peut bénéficier de la production d'un autre pays. Sur la fixation des prix, on sent que ce n'est pas complètement optimum.
Tout à fait. De grandes discussions s'effectuent sur ce principe de merit order, comme M. Mahul vous l'a exposé, car on a vu les limites de l'exercice. Donc actuellement, il y a des questions autour de la fixation du prix du gaz sur ce principe du merit order. Est-ce qu'on va continuer de cette façon-là ou on va cibler un prix et qui va être le prix le plus acceptable, mais le vrai prix d'électricité, parce qu'on a vu que cet envolé ne correspondait, n'avait plus de réalité physique au sens propre du terme.
Donc au-delà du prix, je vais me retourner vers Rémi, donc, qui a contribué à produire ce podcast que vous pouvez réécouter en intégralité sur Radio Albigès dans la rubrique podcast. On parle beaucoup de coupures tournantes, de délestage. Alors on parlait de janvier, a priori une semaine aussi comme celle-ci, puisqu'on enregistre le 6 décembre 2022, est une semaine cruciale. Qu'est-ce qui risque de se passer en termes de quantité? Est-ce qu'on va en avoir assez? Et s'il n'y en a pas assez, comment ça va s'organiser?
Alors du coup, en première ligne, face à la crise énergétique, du coup, il y aurait d'abord les entreprises qui seraient touchées. Donc ça pourrait être certains lieux comme les stades, les centres commerciaux, etc. En revanche, les sites comme les hôpitaux, les écoles et tout ça seront épargnés et seront touchés qu'en dernier recours. Et du coup, après, les Français pourraient également connaître des coupures d'électricité en dernier recours si jamais il y a un fort risque de blackout. Et donc RTE, qui est le réseau de transport d'électricité et qui gère le réseau électrique, prévoit donc d'avertir les personnes au moins une semaine à l'avance et que les coupures du coup ne dépasseraient pas 2 heures en termes de timing.
Pareil, sur cette question-là, au syndicat de l'énergie du Tarn, est-ce que c'est une problématique, on va dire, que vous traitez ? Est-ce que vous avez des questions, des communes par rapport à ce dont on parle ?
Donc, oui, nous avons des questions des communes. Nous avons autant d'informations que vous en avez. Par contre, le point crucial que l'on travaille avec les communes, notamment au niveau du service de M. Mahul, c'est d'économiser à présent un maximum d'énergie et d'utilisation électrique. Donc de faire comme tout à chacun, il est conseillé de baisser sa température de chauffage si vous vous chauffez de façon électrique, mais même si vous chauffez au gaz, et de travailler immédiatement sur des économies pour éviter ces coupures. Mais aussi, ça permet de rentrer dans, je dirais, une ère différente en termes de consommation et d'avoir alerté, malgré les alertes depuis des années, sur la nécessité d'une sobriété énergétique. Tout le monde doit travailler de cette façon-là et tout le monde doit faire un effort dans ce sens.
Et dans votre relation justement avec ces communes où il n'y a pas que des spécialistes de l'énergie comme interlocuteurs, une année comme celle qu'on vient de vivre avec des prix élevés, on voit bien les conséquences négatives, mais est-ce qu'en termes d'impact, de prise de conscience, vous avez vu ces acteurs bouger et prêts peut-être à faire des efforts qu'ils n'étaient pas prêts à faire les années précédentes ?
Alors, je dirais que les communes sont quand même, malgré la mauvaise publicité que l'on peut faire parfois, sont des gestionnaires de bons pères de famille. Ça fait quand même des années qu'ils avaient essayé de limiter les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses de facture d'électricité. Donc, cela fait quand même quelques années que l'on travaille sur la sobriété énergétique autour du bâtiment et de l'éclairage public. Je dirais l'avantage de cette crise, si on peut en tirer un avantage, c'est que ça a sensibilisé d'un seul coup l'ensemble de la population et qui maintenant accepte beaucoup plus les systèmes d'éclairage intelligent, de coupure, de gestion des bâtiments, de sobriété, d'accepter d'aller nager avec une température un peu plus basse, d'accepter de rentrer dans une école avec une température plus basse. Il y a une meilleure acceptabilité de par la crise et une solidarité.
Justement,
pour compléter, ouais, il y a beaucoup de projets aussi qui avaient été laissés de côté de la part des communes parce que elles n'étaient pas économiquement rentables. Sauf que mécaniquement, en fait, quand on a une explosion des prix de l'électricité, on a des temps de retour qui sont beaucoup plus courts. Et du coup, on ressort des projets qui avaient disparu. Donc effectivement, il y a une prise de conscience plus importante et de nombreux projets qui devraient voir le jour. Après, les communes se retrouvent un peu dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'elles ont envie d'investir pour faire des économies d'énergie, mais qu'à côté de ça, elles ont du coup une augmentation des dépenses de fonctionnement qui sont liées à l'énergie. Donc la première recherche, là, du côté des communes, ça va être des économies rapides avec l'installation, en essayant de consommer raisonnablement. Donc on peut prendre l'exemple des écoles, essayer de consommer au maximum quand les écoles sont ouvertes, réduire les consommations nocturnes. Voilà, ça va être ce genre de pistes qui vont être étudiées parce qu'il faut très peu de capacité d'investissement et on a des retours en fonctionnement qui sont très intéressants pour les collectivités.
Vous venez d'écouter un extrait de l'émission enregistrée le mardi 6 décembre dernier à l'Université Champollion, une émission proposée par les étudiants de la licence pro énergie climat sur les causes et les conséquences de la crise énergétique actuelle. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast en passant par notre site radioalbiges.com.
Comme la semaine dernière avec le podcast de Matisse, regard sur l'architecture du collège Jean Jaurès d'Albi, Radio Albitzès vous propose cette semaine de porter votre regard, ou du moins votre oreille, sur l'eau, avec un podcast de Bérangère, remontage serré d'un reportage de 2021 autour du lavoir du Théron à Gaillac, l'occasion de souligner l'absurdité de la logique capitaliste et administrative où les demandes sont simples, les réponses compliquées et les réels enjeux masqués. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase dans Comme un lundi.
Parfois en reportage, on assiste à des dialogues de sourds.
Ça fait 60 ans qu'il est ouvert et maintenant ils ont fermé. On veut savoir pourquoi. En fait, on veut savoir pourquoi ils ont fermé. Moi, ça fait 14 ans que je suis rentrée en France et qui est ouvert. Et ça fait 2 ans qu'ils ont fermé. On a fait beaucoup de demandes. On a parti à la mairie, on a parlé avec le maire. Ils ont dit on va faire les travaux. Et quand ils ont dit les travaux, ils ont marqué interdit. On veut savoir pourquoi ils ont marqué interdit.
Une incompréhension entre des citoyennes et des élus, ça coule pas forcément de source.
Je vais commencer par me présenter. Je suis un des élus de la mairie et c'est à ce titre-là que je viens vous donner quelques éléments pour que vous compreniez pourquoi on ne peut pas vous autoriser, malheureusement, parce qu'on le regrette, à laver votre linge ici.
D'un côté, la demande est en général plutôt simple.
Si les papiers sont sales, on vient pour...
Mais de toute façon, c'est beaucoup plus printemps-été.
Oui,
printemps-été, autant hiver, non, personne, parce que c'est trop froid.
Ouais, c'est trop pour l'été,
voilà. Fin de printemps, l'été, début d'été, mais après, il n'y a personne. C'est juste une période d'un mois, deux mois à peu près. Hein.
Et de l'autre, les réponses sont toujours plus compliquées, comme si on ne se baignait pas dans le même fleuve.
Vous savez que le lavoir a été complètement réhabilité, que c'est un monument historique, que son eau est une eau de source qui vient d'une petite rivière, un petit ruisseau souterrain, et qui se rejette ensuite dans le Truchou, puis dans le Tarn.
En face, à nouveau, on se dit que oui, c'est sûrement plus compliqué qu'il n'y paraît, alors on cherche à voir la complexité du problème.
Les personnes qui ont les maisons, elles ont des garages, elles ont des terrasses. Mais par rapport aux personnes qui habitent dans une immeuble, dans les HLM, dans le balcon, c'est interdit. Dans la baignoire, ça ne marche pas.
C'est pas possible.
Et de l'autre côté, on répond par plus de complexité encore. On essaie de noyer le poisson.
Actuellement, on ne peut pas vous autoriser à utiliser des lessives, même du savon noir ou d'autres détergents, pour laver du linge, et on ne peut pas vous autoriser à vous y baigner ou à ce que les enfants viennent s'immerger dans l'eau pour des questions de pollution.
Par rapport à la demande de départ, la réponse n'est souvent pas satisfaisante.
Moi, je comprends. Hein. Moi, je comprends. Hein. Je veux savoir pourquoi ils ont fermé. Les paroles qu'ils ont dit, la parent très fermée.
Et c'est là que ça se complique encore un peu plus. Les tuyaux semblent bouchés.
Madame le maire, vous avez dit qu'on allait étudier la chose pour essayer de rendre possible le lavage du linge à l'intérieur du lavoir. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible pour une raison simple, c'est qu'il y a une loi qui interdit qu'on déverse de l'eau pluviale ou de l'eau propre d'un ruisseau dans une station d'épuration. Parce que ça engorge les stations d'épuration. Elles viennent à déborder en moment de pluie où elles ne peuvent pas traiter correctement toutes les eaux sales et à ce moment-là, elles rejettent des effluents qui sont sales et qui vont polluer par ricochet le Tarn.
Merci. On ne va pas lâcher la
terre.
Ouais.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Devant le statu quo de la situation, on n'arrive bien souvent pas à établir un dialogue. Alors, on repart avec la tête pleine de questions, comme dans son bocal, le poisson.
Plutôt que de polluer, puis de dépolluer notre eau, et si on évitait d'abord de la polluer ? La teneur maximale en pesticides autorisés dans l'eau potable est dépassée dans les cours d'eau de la moitié du territoire français et dans le tiers pour les nappes phréatiques. Quant aux nitrates, la valeur guide est dépassée dans près de la moitié des nappes phréatiques. Pour fabriquer de l'eau potable, il est donc nécessaire de traiter les pollutions, processus qui coûte très cher aux consommateurs, entre 750 millions et 1,3 milliard d'euros par an, directement prélevés dans leur facture d'eau. C'est là que le réseau d'assainissement écologique s'est posé la question de comment on peut faire progresser l'idée qui est finalement pas mal rentrée dans la tête des particuliers, la maison, le jardin, de l'assainissement écologique, mais comment on peut arriver à faire des propositions aux gestionnaires de l'urbanisation pour arriver à développer également le côté écologique du traitement des eaux qui sont salies par nos usages. Le plus, c'est que choisir fait des propositions concrètes. Que l'on encourage les agricultures peu polluantes, comme l'agriculture biologique, à proximité des sources. Enfin, que l'on mette en œuvre le principe pollueur-payeur pour que les consommateurs ne payent plus pour les pollutions qu'ils subissent. La réglementation a bien prévu que les toilettes sèches soient réglementaires, mais elle a oublié de prévoir que si les toilettes sèches sont réglementaires, ce qui dit toilettes sèches dit que on a des eaux qui sont moins chargées à traiter puisqu'il n'y a pas de matière fécale dedans. Et la réglementation, elle a complètement oublié de préciser que les eaux usées avec les matières fécales, ça n'a pas du tout la même qualité, la même charge de pollution que des eaux dans lesquelles il n'y a pas les matières fécales dedans. C'est juste ça, et ça fait toute la différence.
La goutte d'eau qui fait déborder la vase, un podcast de Bérengère. Remontage serré d'un reportage de 2021 autour du lavoir du Théron à Gaillac. Reportage que vous pouvez retrouver en intégralité via notre site www.radioalbices.com. Et pour les podcasts de Radio Albices, on peut notamment les entendre chaque soir vers minuit dans le créneau Les Ateliers de la Nuit.
Tout son brand 4 sous la zone d'os des Radio Albices. Vous écoutez l'hebdo d'info comme lundi, du lundi 12 décembre 2022. On continue en musique avec une nouveauté musicale à retrouver dans notre playlist. C'est La Mal Coiffée, un titre extrait de leur dernier album, Rouge Caparut. Rouge Caparut, ça peut se traduire par Rouge Têtu. Un album qui constitue le deuxième volet d'une trilogie annoncée autour du rouge, couleur qui revêt ici une dimension symbolique, éminemment politique. Ce cycle créatif se fonde en effet sur la volonté de raconter un territoire particulier, l'Occitanie, et dans le même geste d'exprimer un virulent désir de résistance face à toutes les formes de colonisation ou d'oppression. Tout de suite, sur Radio Albices, on écoute La Mal Coiffée.
Ai bombos, tinos hombres assassinas capaires de tumbos. No silêncio lanculi, pel fracas de lai bombos, tinos hombres assassinas capaires de tumbos. Fiulel de lai balos, din nous sommes crimes et des nazis éternalos. Lou, silenci l'anculi, per fiulel de lai balos, din nous sommes crimes et des nazis éternalos. Que la notre canzou vinda. Per un silenzi, se racconta un paio di storie, farà fare paro il mos, se da spore sgarzù, rumore e serimento, accoppara nostro gioio, accoppara padre. Homis cremes et dinasius eternalos. Nous silenci l'anculit, c'est le fioulel de l'aibalos, et nous homis cremes et dinasius eternalos.
Nous silenci l'anculit, il nous branda que l'otero, che se buio di spartiti l'imperi sementeri.
Silenzi l'anculit, di nuovo branda che l'ottero, che se buio di spartiti l'imperi sementeri. Che la nostra canzone venda sleo silenzi, se racconta un paio di storie.
Tanta contagna,
Et Baki Bravemonde, tout son brancard sous la zone de Radio Albitzès pour l'émission Comme lundi, l'hebdo d'info du lundi 12 décembre 2022. Vous venez d'écouter un titre extrait du dernier album Rouge Caparut du groupe La Mal Coiffée. On continue la seconde partie de cet hebdo d'info en retrouvant Will.
Radio Albitzès ne vous propose pas que ses propres podcasts, ses propres créations radio, mais elle vous donne aussi à entendre des échos amis dans le créneau podcast ND chaque mardi soir à 20h, rediffusion chaque dimanche à midi. Et cette semaine, c'est l'ami Claire Cachecou-Soucy qu'on vous propose d'écouter dans un documentaire en deux parties réalisé pour la Fête des Morts et de l'Entremonde, une coproduction de la compagnie Nanaki et de Erdotan Gaillac. On en parle avec Claire elle-même.
Lorsque la radio est devenue mon gagne-pain, j'ai d'abord été en charge du journal d'info sur Erdotan. Très vite, j'ai eu envie de travailler des formats plus longs, des sujets complexes, tout en donnant une esthétique sonore à mes productions. Je me suis formée aux côtés d'Inès Leroux et de Pauline Mocor de France Culture, d'Arnaud Forest d'Arte Radio et de Benoît Bory de Faïdos Sonore. Du coup, aujourd'hui, mes travaux sont teintés de toutes ces influences. J'anime également des ateliers radio dans un tas d'endroits. C'est un grand plaisir de partager ce goût du récit. La fête des morts et de l'entremonde s'est tenue à Rabastens pour la Toussaint 2021. Il y a eu des ateliers de land art, une déambulation de la Vespa Orchestra Cougourdon, des performances poétiques et clownesques pour cet événement où l'art était vecteur d'une sorte de rituel personnel et collectif. Dans une salle avec un hôtel et des décorations d'influence mexicaine, on a donné à entendre les deux épisodes de ce documentaire « Danse avec les morts ». La compagnie Nanaki qui organisait cet événement m'avait laissé carte blanche. Céline Astrier, sa directrice artistique, savait que je m'intéressais de près à ce sujet. D'abord, j'anime, quand on me le demande, des cérémonies d'obsèques laïques afin de rendre un bel hommage aux défunts. Il me semble que c'est un vrai temps fort pour celles et ceux qui restent, pour qu'ils puissent continuer à avancer dans la vie sans s'effondrer. Et puis, de manière plus philosophique, anthropologique, j'ai lu l'été 2021 le livre « Au bonheur des morts » de Vinciane Després. Et là, ça m'a vraiment donné envie de partir collecter autour de moi des récits pour découvrir ces liens que les vivants tissent avec leurs morts. Parce que la thèse de Vinciane Després, c'est que faire son deuil, ça n'est pas forcément jeter le défunt aux oubliettes. Et je me suis dit qu'en effet, sans aller bien loin, juste autour de chez nous, il y avait sûrement plein d'histoires comme ça à partager. Au bonheur des morts. Soigner les morts pour guérir les vivants. Vivre avec les morts. Autant de titres que j'aurais aimé donner à ce documentaire. Mais ils étaient déjà pris pour des ouvrages qui ont inspiré cette création radiophonique. Depuis quelques années, la fête des morts d'inspiration mexicaine m'invite à questionner notre lien aux défunts, à celles et ceux qui nous ont quittés. De début septembre à fin octobre 2021, j'ai demandé à des habitants et des habitantes du cœur du Tarn, des villes et des campagnes, ce qui les lie ou les relie à leurs défunts. Pense-t-il à eux? Les honore-t-il? À quel moment? Et comment? En posant ces questions, ont émergé des récits qui tentent d'y répondre, partageant des manières d'entrevoir la mort, en soufflant des ressources pour se renforcer. Au cours de ce premier épisode, vous allez entendre deux femmes paysannes, l'une en activité, l'autre à la retraite, ainsi que des femmes de Groyer qui se retrouvent chaque semaine avec l'association Les Ateliers du Monde. Du témoignage allant du banal au mystique, la frontière étant parfois ténue, et ce, sans commentaire. C'est vrai que dans mes intentions, j'avais envie et peut-être même le besoin d'entendre des idées, des ressources, des outils, autrement dit, une manière de voir les choses positivement, des choses réconfortantes. Parce que quand la mort surgit, qu'elle emporte un proche, ça peut être triste, voire super triste. Je dois dire que ça m'est pas vraiment arrivé à moi personnellement. C'est peut-être aussi pour ça que j'appréhende, ou peut-être ça me fait un peu peur. Et donc, j'ai besoin, voilà, de me préparer, de m'outiller, même si je sais qu'on n'est jamais préparé. Mais voilà, je me dis que quand ça surgit, au moins, si on s'y est préparé, si on a des choses à se raconter, eh ben, que peut-être on peut traverser ça un peu plus sereinement.
Trois ans après la mort de mon frère, mon père est mort. Il est mort chez lui, je l'ai trouvé un matin. Et il était entouré, il avait des aides de vie qui venaient quotidiennement, et notamment un infirmier qui m'a proposé assez rapidement de faire la toilette ensemble, de le préparer. Et donc on l'a lavé, on l'a habillé ensemble, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire très rapidement, parce qu'après le corps devient raide, et donc c'est quelque chose qui est... Et donc bon, c'est vrai que lui soit là et soit venu très rapidement quand il a appris sa mort, ben nous a permis, m'a permis aussi de vivre ce moment-là, qui était, ben oui, un moment de soin, quoi, de cet homme, de mon père, quoi. Il y a quand même le thanaxopracteur qui est venu pour l'embaumer, parce que ça peut rapidement être très incommodant, les odeurs, et du coup de pas permettre le recueillement et le temps d'être d'être là à la maison. Et donc les amis après sont venus dans l'après-midi, ses amis, et passé toute la soirée ensemble. Et il est resté, oui, 2 jours. Et du coup, le matin, j'ai pu aussi lui faire son petit déjeuner préféré et lui apporter le plateau auprès de lui. Enfin, il y a eu plein de moments différents, quoi. Mais c'est vrai aussi que ce moment de veille à la maison, enfin, pour moi aussi, c'était quelque chose d'important, quoi. Parce que c'est là où il vivait, il y avait tous ses objets, tout son univers. Et le partager une dernière fois avec... les amis, pour soi-même aussi, pour moi-même à ce moment-là, c'était super important. Ouais. Bon, je pense très souvent à lui, à mon père et à mon frère, et des fois aussi aux autres. Je leur dis bonsoir très souvent le soir en me couchant. Bonne nuit, mes amours.
Quel remède face à cette mélancolie ? Eh ben, je trouve que les personnes que j'ai rencontrées portent des récits qui, en tout cas à moi, me donnent de la force. Et après, quasiment toutes les personnes sollicitées pour témoigner, eh bien, elles ont accepté. Et je crois même avoir senti qu'elles ont eu du plaisir à le faire. Une autre grande joie, c'est quand des auditeurs et des auditrices me racontent avoir osé repenser à leurs défunts avec plus de paix, avoir bidouillé des petits rituels pour eux, à la Toussaint ou à d'autres moments. Du coup, c'est vrai que je suis toujours très touchée quand les documentaires que je réalise accompagnent les gens à vivre mieux, quand ils y puisent de l'inspiration, des nouvelles ressources. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu notre rôle à nous, à travers le son et la radio, la collecte de récits, de mettre en relation des gens qui ne le sont pas entre eux.
Sinon, après, c'est vrai que mes morts, je passe pas tant de temps que ça, tu vois, à m'immerger dans mes morts, quoi. C'est pas parce que je vais faire le gâteau d'anniversaire de famille qu'elle faisait, ou la crème de marron, que je vais forcément penser à elle. N'importe comment, si je le fais, c'est que voilà, il y a une part d'elle qui rentre en moi, de ses petites pratiques, de ses petites recettes, de ses petites valeurs, de ses façons de voir les choses. Après, une fois que c'est intégré, bon, bah, c'est un peu ce que tu as transmis à la personne, c'est un peu d'elle, quoi. Mais sinon, après, oui, non, bah, du coup, voilà, c'est un peu rentré en moi, quoi, la mémé, et puis voilà, c'est ça qui me constitue en partie, quoi. Donc, c'est quand même. Je suis pas trop dans le souvenir, mais elle est quand même présente, forcément. Bah, tu peux goûter. Bon, ça va passer.
C'est bien bon. Les blancs neige.
Ah, c'est léger. T'as l'impression de manger un nuage quand même. Hein. Alors. Ensuite, ben, tout mélanger. Ça, c'est facile. J'allume le four. Mmh.
frais.
C'est un moule à cake, hein. C'est une insulte du capitaine.
La relation à la mort nous amène très vite dans des dimensions spirituelles qui ont tendance à relever de la foi, de la croyance. J'ai donc eu à cœur de donner à entendre une diversité d'influences et de pratiques. Et ce qui relie toutes ces influences, toutes ces pratiques, je crois, indéniablement, c'est l'amour. La jeune femme qui a perdu sa maman à l'adolescence, c'est une amie. Je la connaissais depuis quelques années au moment où j'ai fait le tournage et j'avais jamais osé lui parler de sa maman, de ce que ça lui avait fait ce départ quand elle était ado. Et le projet du documentaire, eh bien, il m'a donné l'audace de faire ça, d'aborder ce sujet avec elle. Et elle s'y est livrée en toute simplicité. Ça nous a sûrement rapprochés d'ailleurs. J'ai tourné ce documentaire en septembre 2021. Donc j'avais fait une phase d'exploration, de documentation, d'échanges informels pendant l'été 2021. J'ai tourné en septembre 2021 et j'ai monté ça en quelques semaines pour que ça puisse, en octobre en gros, 2021, pour que ça puisse être diffusé pour la première fois, donc en live à la fête de l'Entremonde, la fête des morts, pour la Toussaint 2021 à Rabastens.
Danse avec les morts, et c'est donc à écouter aussi sur les ondes de Radio Albitzès demain mardi 13 décembre à 20h pour le premier épisode, rediffusion ce dimanche 18 à midi, et mardi 20 décembre à 20h pour le second épisode, rediffusion le dimanche 25 décembre, et oui, vous n'avez rien de prévu, à midi. Ce sera peut-être plus joyeux que certains repas de fin d'année, faut dire. Merci à Claire Cache-Couche-Soucy, merci à la compagnie Nanaki, et merci à Erdotan Gaillac, et on salue bien tous nos morts et mortes de 2022, partis trop tôt, sans doute. Où serait-ce nous qui tardons un peu ? Vous inquiétez pas, on vous rattrapera tôt ou tard. Du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 2022 se tenait à Carmaux la 8e édition du Festival du cinéma social et ouvrier. On y a laissé traîner notre micro pour en saisir l'ambiance et les humeurs des spectateurs et spectatrices, et notamment pour croiser des personnalités comme ici Romy Cossia Di Ferro, jeune scénariste, l'occasion de parler avec elle de son métier et de son approche du métier.
Alors, je m'appelle Romy Cossia Di Ferro, je suis la co-scénariste du Marchand de Sable, réalisé par Steve Acheppo. Et je suis ici au festival pour représenter le film, qui est un premier film, le premier film de Steve Acheppo, mon premier film porté à l'écran aussi.
Messieurs, dames, bonsoir.
Donc, un moment assez émotionnel pour nous.
D'être venu ce soir pour une avant-première qui est vraiment très, très en avance sur sa sortie nationale. On est ravis à Carmaux de recevoir la scénariste de ce long métrage, donc Le Marchand de Sable, que vous allez voir maintenant, qui vient spécialement de Paris et qui va donc débattre après la projection autour de son travail, de son scénario et du film que vous aurez vu. En attendant, on profite de la voir.
Alors le scénario, il est vraiment écrit dans son intégralité, avec toutes les phrases de dialogue, on va dire 90% ou 85% de ce qui est à l'image était déjà au scénario. Après, c'est sûr qu'au tournage, quand on tourne, il y a des choses qui se révèlent, des acteurs qui trouvent certaines choses, des scènes qui fonctionnent mieux d'une certaine façon, ou parfois des scènes qui fonctionnent très bien sur papier et qui fonctionnent pas du tout quand on les joue, et donc il faut réimproviser. Et puis surtout, le scénario se réécrit au montage. On dit souvent que le montage, c'est du scénario, mais juste avec des images. Et c'est sûr qu'au montage, il y a toujours plusieurs versions, avec plusieurs allers-retours aussi. Parfois, une scène a été écrite dans le scénario, elle est à la 20e minute, elle se retrouve 20 minutes plus tard. On alterne, on change les choses un peu en cours de route. Voilà. Quand j'ai commencé par faire au départ une licence de cinéma un peu générale, où j'avais touché un peu à tous les métiers, et particulièrement la partie scénario. On nous a fait écrire différents genres de textes. Mais aussi parce qu'en licence, on est très jeune, on a 18 ans, on explore, on cherche des styles d'écriture, etc. Après, quand je suis arrivée à la FEMIS, où c'était vraiment une spécialisation scénario, on est quand même très, très centré sur l'écriture de scénario. Parce que c'est une écriture très propre en soi, quoi. Enfin, je veux dire, un scénario, on écrit que ce qu'on voit. On peut pas écrire dans un scénario le personnage se sent triste. C'est le une larme coule, par exemple. Donc c'est vraiment une écriture très spécifique. Et oui, après la formation de scénariste, elle nous apprend vraiment à savoir incarner par des gestes, par des mots, par des dialogues, ou par des actions, ce que le personnage ressent. Et ça, c'est quand même très différent du roman, ce qui fait qu'au bout d'un moment, non, on se spécialise vachement. Après, il y a certains professeurs de scénario qui, pour l'exercice, demandent d'écrire une scène, par exemple, à la première personne. On a eu ça. On avait eu notamment Bertrand Blier, qui est quand même un scénariste hors pair, et qui nous avait fait faire cet exercice où des scènes de notre scénario, il nous demandait de les écrire à la première personne, comme si c'était un récit narratif, pour que justement on se mette plus dans la tête de notre personnage. Mais c'est vraiment un document de transition, de réflexion. C'est vraiment un travail d'équipe, le cinéma. Et c'est impossible de savoir bien écrire un scénario, ou de bien éclairer une scène, ou de prendre le son d'une scène, sans se rendre compte quand même des impératifs des autres métiers. Après, forcément, c'est pas non plus des... Enfin, c'est une forme, ça reste, ce sont les bases qu'on apprend sur les autres corps de métier, mais je pense que c'est très important et c'est dommage de s'en priver aussi, parce que ça nous permet aussi de pouvoir nous rendre compte des possibilités qu'offre tel ou tel département et des limites aussi de tel ou tel département et de pouvoir travailler en fonction pour pouvoir, voilà, c'est un travail d'équipe. Donc chacun va mettre ses capacités au service des capacités des autres. Donc, en tout cas, je suis de l'école où il faudrait que tous les corps de métier du cinéma aient un minimum de connaissances par rapport aux autres métiers, voilà, pour mieux honorer ce travail d'équipe.
Dans Marchand de sable, il y a peut-être des archétypes de personnages qui sont censés un petit peu, bon, c'est censé être sujet du réel. Mais pour les besoins, j'imagine, du cinéma, il faut un petit peu archétyper les personnages et les incarner, justement, avec les essentialiser un peu, c'est ça que...
Les Américains, qui sont quand même très bons en scénario, ils ont vraiment ce truc dans le... Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre de dramaturgie et ils ont vraiment le personnage principal, l'adversaire, le vieux sage qui est un peu le Gandalf, voilà, la mère, le père, la figure paternelle, Ces archétypes, c'est vrai qu'on y pense quand on écrit. Après, le défi est quand même de gommer le côté caricatural que chaque archétype pourrait avoir. Forcément, en fonction du genre de film. Mais dans Le Marchand de sable, par exemple, le personnage de Magimel, on a vraiment voulu jouer sur le trouble entre est-ce que c'est le vieux sage ou est-ce que c'est l'adversaire. Et c'était très intéressant de justement mêler deux archétypes qui normalement n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pareil pour le colonel aussi, c'est quand même son frère de cœur. Dans une version antérieure, c'était son vrai frère, carrément. Et il y avait vraiment en faire l'espèce d'allié au départ, qui finalement devient un adversaire. Enfin, toute notre écriture, on s'est concentré aussi au bout d'un moment à jouer sur ces archétypes-là pour enlever au film le côté manichéen qu'il aurait pu très facilement avoir. Mais je pense que ça dépend des films. C'est-à-dire que dans un film qui a un sujet comme celui-là, si on était trop rentré dans les archétypes classiques, ça aurait vraiment fait un film manichéen qui aurait soi-disant apporté une réponse alors qu'on n'en a pas. Voilà. Il y a certains films où je pense que c'est très bon d'avoir des archétypes. Comme des films épiques ou les films un peu plus de conte, où avoir des archétypes aussi permet d'avoir, pour le spectateur, permet d'avoir des repères connus dans un, alors que le monde autour est un monde justement inconnu, on découvre un nouveau monde, etc.
On parle de cinéma social et ouvrier, en tout cas aujourd'hui on est au festival social et ouvrier, du film social et ouvrier. Souvent on a l'image aussi que le cinéma documentaire est peut-être plus proche pour faire du social ou filmer des luttes, filmer des etc. Contrairement à ce qu'on imagine, le documentaire il est très écrit aussi. Oui. Est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que tu te pencherais sur écrire le scénario d'un documentaire?
Alors moi personnellement oui, je trouve ça très intéressant. Je m'en rendais pas compte avant de combien les documentaires étaient écrits. Je pensais que les gens qui faisaient des documentaires prenaient leur caméra et puis ce qui se passait, quoi. Et c'est quand moi je m'étais essayée à faire ça, C'était en 2015, pendant des... J'étais au Liban à l'époque, et c'était pendant un gros mouvement de révolte, et je m'étais dit, je vais faire un documentaire sur tout ça, et donc j'ai filmé tout et n'importe quoi. Et je me suis retrouvée en montage avec tout et n'importe quoi. Et là, j'ai compris que même le documentaire, c'est quand même... Il y a un vrai travail d'écriture qui vient avant, sinon ça peut aller dans tous les sens. Donc moi, personnellement, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, parce que toutes les fictions sur lesquelles j'ai travaillé, en plus, sont parties du réel. Donc il y a toujours eu un aspect un peu documentaire aux fictions que j'ai écrites. Donc oui, pourquoi pas un jour vraiment m'essayer à l'exercice du documentaire. Ce n'est pas très démocratisé en France qu'un scénariste extérieur vienne déjà sur une fiction. Ça reste encore un métier plutôt rare, on va dire, qui n'a pas encore toute sa place, comparé aux États-Unis par exemple. Mais en documentaire, c'est vraiment très très rare d'avoir un scénariste qui intervient dans l'écriture. En général, c'est la personne qui réalise, qui a déjà une certaine idée. On m'a déjà demandé de faire des consultations. Mais de là à écrire, on n'y est pas encore. Mais j'espère que ça arrivera, parce que oui, ça m'intéresserait beaucoup.
Et si on continue sur les formats, la série c'est très suivi, très un peu partout dans le monde d'ailleurs là pour le coup. Et c'est peut-être d'ailleurs le métier de scénariste en France, peut-être ça arrive plutôt par la série. Ça t'intéresserait aussi et sur quoi et comment? Est-ce que ça serait vraiment un autre métier ou tu l'aborderais
Alors justement, là je suis en train de développer le concept d'une série avec une amie qui est co-scénariste et comédienne aussi. Donc oui, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même un format qui m'intéresse beaucoup. Déjà parce qu'en tant que scénariste, c'est le rêve d'écrire une série où tu peux développer tes personnages. Le principe même de la série, c'est de créer un personnage qui a un dilemme qui ne peut pas être résolu. Et donc qui peut s'étendre à l'infini. C'est très intéressant pour des scénaristes. Je pense que c'est un peu la série aujourd'hui, en tout cas avec tout ce qu'elle, tous les moyens qui sont mis dans la série aujourd'hui et la portée que les séries ont aujourd'hui. Je pense que beaucoup 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 de scénaristes ont envie de s'essayer à cet exercice-là. Et donc oui, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis je fais partie d'une génération qui, malheureusement, heureusement, on ne sait pas trop, mais qui est plus biberonnée à la série qu'au cinéma. Donc c'est des sensibilités qu'on a qui sont inconsciemment en nous. Il y a des choses qui nous viennent naturellement dans la série. Et en France, ça a remis les scénaristes sur le devant de la scène. Je pense que la place des scénaristes aujourd'hui est enfin remise en question grâce aux séries.
Merci à Romy Cossia Di Ferro, jeune scénariste, notamment du film Marchand de sable, projeté lors de la 8e édition du Festival du cinéma social et ouvrier de Carmo en novembre dernier. Retrouvez l'intégralité de cette entrevue et d'autres échos du festival très bientôt sur nos ondes et en podcast sur notre site www.radioalbigès.com.
Allez, comme lundi, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast en passant par notre site radioalbigès.com. À noter que nous passons en mode vacances d'hiver à partir du lundi 18 décembre prochain et qu'à cette occasion, nous vous proposons de retrouver un florilège d'émissions à réécouter. Alors, on compte sur vous pour rester branché sur votre radio locale. Allez, on termine cette émission en musique avec Turbo Niglo. Ils seront en concert ce samedi 17 décembre à 21h du côté du Café Associatif Carte sur table à Gaillac. Ciao ciao.